Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule de Ça donne pas le bourdon. Aujourd'hui, on commence une petite série qui va s'intéresser au son et je suis donc avec Pascal Duic qui encadre une formation professionnelle intitulée Paysages sonores et enjeux environnementaux et Baptiste et Coralie qui y participent comme stagiaires. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ?
Oui, alors je suis, un formateur à plusieurs casquettes. À la fois, je suis impliqué dans la protection de l'environnement, de la nature hein, spécialement, et passionné par le monde de l'acoustique, ce qui m'a amené à m'intéresser au son de la nature. Et donc, je fais, à titre professionnel, hein, des études faune-flore hein, et de la protection de la nature. Et également en indépendant des formations sur le domaine de la prise de son animalière, prise de son nature, initiation à l'écoute des chants d'oiseaux. Et tous ces horizons liés plutôt à l'acoustique. Mais on reste, je reste dans ma passion qui est la nature, quoi qu'il arrive. Après, j'ai aussi eu un bagage dans le domaine de l'aménagement du territoire parce que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement parce que pour moi, c'était une façon d'aborder la question de la préservation des milieux, la gestion du territoire, une gestion raisonnée du territoire, quoi.
Et donc là, la formation, elle est hébergée au domaine Cœur de Brenne qui est situé à Saint-Michel-en-Brenne. Un peu au milieu des étangs, de la Brenne.
Peu au milieu de nulle part. Hein. Mais c'est le cœur de la Brenne est un peu vaste, entre Chérine, ici même, un petit peu plus au sud, vers le Blison. C'est un peu le hotspot pour les ornithologues qui viennent observer tous les oiseaux. Mais la nature en général, hein, parce que là, on se régale aussi bien à trouver des plantes de milieu humide. On est en avril à ce stade, il y a vraiment surtout des oiseaux dans le concert, dans le chorus de la nature, là, le matin, même tout à l'heure encore. La journée était avancée, on avait des bons petits concerts de fauvettes, les hippolaïs sont arrivés d'Afrique, les fauvettes grisettes sont installées, elles chantent déjà, elles échangent bien. Il y a encore y a des canards hein, qui nichent, hein, c'est l'avantage de la Brenne pour ça. C'est un haut lieu pour l'observation des canards. On avait le concert des rainettes hein, oui. À tue-tête le soir, c'est formidable.
Rainettes, grenouilles aussi,
ouais, les grenouilles vertes. Et comme il a plu, les sols étaient un peu détrempés, on avait les crapauds calamites.
Oui. Donc tout un cortège aussi d'amphibiens.
Ouais, et qui ont vraiment une bonne part au concert sonore là, ouais, au concert de la nature ici.
Et au niveau des insectes ?
Oh bah pour l'instant pas encore de grillons, on les attend. Tout à l'heure donc on a mené un peu une sorte de décryptage de notre environnement sonore. On a fait quelques exercices de lecture du paysage mais sonore. Et on s'est fait la remarque, par exemple, qu'on avait les fauvettes qui venaient d'arriver. Et là, on entend le coucou.
Oui, on entend le coucou.
Qui révèle qu'on a déjà passé la fin mars, qu'on est en avril, qui est déjà bien avancé. Mais on n'a pas encore les grillons des champs. Ouais. Alors, on se dit, bon, c'est qu'on n'a pas encore atteint la fin avril, ni début mai. Donc, rien qu'à l'écoute, on a fait un petit peu de l'exercice. À déterminer quelle période on peut se trouver. Et puis, en connaissant les oiseaux, leur rythme des saisons, Aussi leur préférence pour occuper tel ou tel milieu, un biotope humide ou bien des écosystèmes plus de forêts, broussailles. À l'écoute, on peut dire, hein, bah voilà, on va être plutôt dans un milieu bocager, une lisière de bois. Et on arrive à déterminer où on se trouve, à quel moment on se trouve de l'année.
Et tout à l'heure, tu parlais de lecture de paysages sonores. Mmh. Ça consiste en quoi ?
C'est ça, on analyse les informations, mais après, on s'entraîne aussi pour s'aider à échanger hein, sur le sujet, à décrire le paysage. Donc, on peut travailler sur le vocabulaire, des mots qui sont peut-être peu usités, mais qui ont tout leur sens. Le français est une langue assez pauvre sur le descriptif auditif. Hein.
Okay. Voilà. Tu as des exemples de mots peu usités ?
Oui, tout à l'heure on s'amusait aussi à reprendre des termes qui existent dans le langage, en langage, on va dire, désuet, hein. C'est vraiment pas usité. Quand on dit que la fauvette chante, on peut être plus précis, on peut dire que la fauvette zinzinule.
Zinzinule, d'accord.
Mais après ça peut être dire, voilà, il y a trouvé des descriptifs... comme on en manque, même si ça peut être utilisé par exemple pour décrire la musique, hein. On a des termes typiquement de musicologie, montée crescendo, un forte final, pas quand on parle des notes de la fauvette à tête noire, hein. Mais ça peut être aussi d'utiliser d'autres termes, hein. Là, un son, tout à l'heure on voulait décrire le son de la courtière, hein, qui est un gros insecte. C'est un peu rugueux. Ça, c'est un des insectes qu'on peut entendre en ce moment-là. Ouais. Rugueux, voilà, une espèce de tremblement vibratoire. On cherche des mots et ça, c'est un petit exercice de vocabulaire qu'on peut faire d'ailleurs à l'école. Oui.
Et là, par exemple, si tu devais décrire le paysage sonore du moment, comment tu le dirais ?
Pollué.
Pollué ?
Ouais. Parce que malgré tout, là, si on se concentre... On entend les avions, toujours.
Oui, c'est vrai.
Et même que la Brenne est devenue presque célèbre pour ça, parce que quand on veut faire de la prise de son animalière, la prise de son nature, en Brenne, on a une telle richesse qu'on y vient volontiers. Et dès qu'on a l'occasion, le printemps, c'est comme un tel bouquet de sonorités, de chants d'oiseaux, une telle diversité que c'est très attrayant. Et il y a quand même un silence ambiant, parce qu'on est vraiment dans une campagne préservée, peu habitée, hein, voilà, c'est peu humanisé. Alors, je suis interrompu par la bouscarle de Séti, qui fait vraiment, qui se fait entendre vraiment au bord des étangs et des canaux. Là. Oui. C'est une sorte de fauvette qui est là toute l'année, et elle se fait vraiment bien entendre, elle a vraiment de la voix.
Oui.
Donc on la repère bien, en plus elle est facile à retenir, donc il y a aussi ça, on essaie d'apprendre à reconnaître les chants d'oiseaux, c'est un peu un entraînement.
Ouais.
Et là, dans ce silence ambiant, ben, les moindres avions, du coup, on les ressent plus peut-être qu'ailleurs en fait.
D'accord.
Donc quand on est près d'une grande mégapole, où il y a des aéroports, une grande métropole avec ses voies rapides, ses rocades... Là, on va ressentir un plus. C'est d'autant plus frustrant quand on enregistre comme ce matin, j'enregistrais le Phragmite des joncs. Il y a une petite fauvette qui est arrivée là un peu partout maintenant, dans les roselières. Et bien, avec les avions, la cohorte des avions, c'était.
Ouais, vous entendez infernal, ouais. Très fort les avions quand vous faites les enregistrements.
Oui. Ouais, on ne se rend pas compte, mais on est très pollué parce qu'on est un peu habitué, mais dès qu'on met un micro, on s'en rend compte.
Et là, vous le percevez parce que le matériel que vous utilisez, il est assez pointu pour les enregistrer.
Oui, il suffit de juste monter un tout petit peu le niveau du volume du casque, hein, par exemple.
Voilà. Même par exemple, avec le micro que j'utilise, là, on pourrait entendre les avions en fond.
Oui, alors les auditeurs peuvent monter le son et ils le constateront facilement, ouais.
On entend le faisan aussi.
Le faisan, ouais. Comme on est loin, on n'entend pas le détail, mais ça aussi, on a un peu examiné les conditions de propagation du son dans l'atmosphère, dans l'eau, la diffraction, etc. Et là, par exemple, on constate qu'on entend son chant éraillé, là, qui est un espèce d'appel à deux syllabes, là. mais on ne ressent pas, par exemple, son espèce de battement sourd qu'il émet en compressant la cage thoracique et en battant des ailes. Et ça, c'est quand on est assez proche. Oui, alors ça c'était en fait, c'est un bricolage, hein. Une tige en fibre de verre en fait, qui était un tuteur et qui nous permet de, au bout d'une canne à pêche, d'avoir une sorte d'arbre pour écarter des micros.
Vous les mettez ?
Ou des hydrophones. Okay. Et donc tout à l'heure on l'a utilisé pour plonger les hydrophones dans les étangs. Écouter la vie aquatique, subaquatique. Notamment des petites punaises qui stridulent sous l'eau.
Donc en fait, vous les mettez sur les côtés du tuteur.
Voilà,
du tuteur.
Ça fait un écart entre chacun, parce qu'on peut produire une sorte de stéréo subaquatique. Et puis ça, c'était une vieille canne à pêche trouvée dans une brocante, mais ça suffit déjà pour faire voilà, un petit dispositif bricolé, mais qui permet d'expérimenter un peu, quoi. Ça nous a donné l'occasion de constater que, par exemple, l'étang, qui a été curé il y a pas longtemps, je sais plus de combien, peut-être 2-3 ans maximum, peut-être seulement 2 ans, et plus pauvre en émissions sonores d'invertébrés que l'ancien étang qui n'a pas encore été curé et qui est sans doute plus envasé. On constate peut-être qu'il y a un peu plus d'oiseaux du côté qui a été curé il y a pas longtemps, probablement que... Il y a un autre écosystème, mais voilà, il y a aussi la biodiversité, c'est pas non plus que les oiseaux.
Oui.
Il peut par exemple avoir peut-être plus de libellules sur l'étang qui est plus envasé, quoi, si ça se trouve.
Et ça, c'est des données qu'on peut récupérer que en écoutant sous l'eau, en fait.
À ce stade-là, oui. Peut-être qu'en attendant le mois de mai, le mois de juin, on verra plus d'émergence de libellules d'un côté que de l'autre, et ça sera peut-être une autre indication. Mais pour l'instant, c'est une hypothèse. Moi, j'en sais pas plus, mais on peut constater. Ouais, c'est pas de l'étude scientifique, mais c'est déjà une découverte de ce que c'est que le paysage sonore, qui est là, en l'occurrence, aquatique. Puis en Brenne, ça s'impose un peu parce qu'on a autant enregistré dans l'eau qu'au-dessus.
Ouais. Et c'est un paysage en plus auquel on n'a pas du tout accès autrement.
Ouais, là c'est l'occasion, il faut détenir des hydrophones. Pas mal de gens qui s'intéressent à faire un peu de reportage ou même enregistrer des ambiances de ville ou des amis musiciens ou de la famille, ils vont avoir des micros. Mais il y a peu de gens qui détiennent des hydrophones. Donc là, c'est l'occasion pour les stagiaires de découvrir un autre monde. Et on l'a fait le tour tout à l'heure de l'étang, comme ça.
Et vous avez pu récupérer et réécouter ce que vous avez enregistré ?
Alors, pas encore. Mais tout à l'heure, on a enregistré quelques bribes. On fera le test. Puis sinon, j'ai des morceaux test à écouter aussi.
Et qu'est-ce que ça donne alors comme type de son, ce qu'on peut enregistrer sous l'eau ?
Alors... C'est un peu difficile à décrire parce qu'on a des émissions sonores qui sont vraiment de la communication animale chez certaines punaises aquatiques, par exemple. Et puis on a toutes sortes de crépitements qu'on ne sait pas bien identifier. Il y en a qui sont quand même émis par des petits crustacés. Et puis on a beaucoup de petits pétillements qui sont probablement dus en général... le plus souvent à de la photosynthèse, enfin des pétillements de bulles. Voilà, c'est pas champagne, mais c'est le petit pétillant quand même, un petit ça mousse pas, mais ça pétille.
Est-ce que tu pourrais quand même définir ce que c'est un paysage sonore ?
Alors bon, je dirais que ça va un peu de soi. On parle de paysage. Souvent, on attribue une notion d'esthétique au paysage. Peut-être on en revient un peu maintenant, hein, parce que d'ailleurs, si je décompose, je ne pense pas que c'est la vraie origine étymologique, mais on pourrait dire c'est le visage du pays, le paysage. Et puis, quand on dit ça, hein, ça ne veut pas dire que c'est forcément beau. Bah d'ailleurs, on peut imaginer un paysage dévasté, on parle de paysage désolé. Et puis moi, j'imagine le paysage plutôt comme un grand panorama. Et comme j'ai la fibre écologique, ben, j'imagine que c'est plus une sorte de vaste écosystème. Donc moi, j'analyse le paysage comme un vaste milieu qui est alors plus ou moins naturel et puis plus ou moins humanisé. Et en ville, par exemple, on a des paysages urbains qui peuvent être donc visuels ou sonores, mais qui sont complètement anthropisés. Mais néanmoins, on a quand même la présence de l'animal, hein, et puis même d'autres signes de la nature, enfin d'autres éléments naturels, comme si on a un parc, un bel alignement d'arbres, ça va rentrer en compte dans la notion de paysage, mais du point de vue sonore, comment faire pour l'intégrer dans le paysage sonore? Mais en fait, une légère brise dans les frondaisons des pins, pour peu que vous soyez un peu à l'écart des axes principaux, que votre parc soit assez grand, ça vous transporte, vous avez l'impression d'être dans les contreforts d'un massif alpin, par exemple, parce que tout de suite, le son, il vous évoque, hein, des souvenirs. Et voilà, ça peut être une ouïe du paysage sonore. Ouais. Et le paysage sonore, après, ça peut être... ici, ben, par exemple, c'est vraiment marqué. Hein. On se disait, la présence des étangs, toujours l'omniprésence des étangs, ça connote vraiment la Brenne, parce qu'on a toujours des oiseaux typiques des étangs. Mmh. Voilà.
Ouais. Donc ça, ce serait un peu la patte auditive de la Brenne.
Oui, vraiment. Hein. Il y a une ou deux autres régions en France comme ça. Mais ici, il y a une telle richesse. On est content qu'elle soit préservée. Puis que... Alors là, la question, c'est la préservation du paysage. C'est une chose, des composantes du paysage, et sonore notamment. Donc quand on dit préservation du paysage et de ses composantes, je parle par exemple donc, des espèces d'oiseaux. Mais ça peut être aussi le gibier, des mammifères plus discrets, les insectes. Et on sait que partout, ils ont tendance à disparaître. On a su à quel point les populations d'oiseaux diminuaient d'un tiers pour certaines espèces depuis 20 ans, 30 ans. Alors, pas le cas de cette fauvette à tête noire là, qui s'est bien maintenue, même qui se répand encore un peu. Peut-être à la faveur du changement climatique, d'ailleurs, on ne sait pas encore trop bien. Mais il y a tellement d'autres oiseaux, par contre, qui déclinent. Ici, j'ai encore eu peine à entendre des alouettes, hein, par exemple. Ouais. Et pourtant, c'est quand même ici une agriculture respectueuse, hein, par rapport à de la grande culture céréalière, bourrée d'intrants. Donc ça aussi, le problème aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que, comme la Brenne est préservée, sa faune, son avifaune est préservée, mais il ne faut pas oublier que quand toutes les populations d'alouettes disparaissent aux alentours, forcément, comme il y a des échanges, ces oiseaux se déplacent beaucoup, il y a beaucoup d'échanges de populations, elles vont se répartir, vont venir en Brenne, ce sera un refuge, d'autres vont en partir, elles ne survivront pas ailleurs, les populations diminuent un peu partout et ça se vide même dans des lieux préservés. Et même vous pourriez avoir les réserves naturelles les mieux préservées, vous auriez quand même cette observation, hein, ça se constate. Hein.
Ouais. Ça fait longtemps que tu viens en Brenne pour pouvoir faire ce constat qui a l'air basé aussi sur l'expérience. Tu disais que tu voyais de moins en moins d'alouettes, oui, par exemple.
Alors je le constate en Brenne comme ailleurs, hein, donc ouais. C'est pas spécifique,
oui, c'est pas
à la Brenne.
À la Brenne.
Oui. Et puis en Brenne, je viens depuis une quinzaine d'années enregistrer. Ouais. Et on est un peu dissuadé parfois, quand on est dans l'optique purement de prise de son, par le fait qu'on sache que on va lutter un peu, hein, pour trouver des interstices de silence entre 12 avions. Bon, 2-3 camions,
ça, ouais, ça, les y a voitures pas... qui ont un son qui porte aussi.
Oui, mais on est en pleine.
Ouais.
Il y a sans doute un phénomène aussi de ricochet sonore acoustique là, sur les plans d'eau. Et les pneumatiques des véhicules, c'est ça qui crée le plus de bruit en fait. Hein. C'est pas tant le bruit des moteurs hein, ouais. En fait. Mais c'est bon, après, il y a des moments de la journée, puis ça se calme. Et puis il n'y en a pas tant. Hein. mais les avions, par contre, ça devient prégnant. Hein, ok, il y a eu la période du confinement, mais le monde d'après, il est pas celui qu'on a rêvé. Hein. Faut pas se leurrer. Je pense que en fait. Il faudrait revérifier les chiffres de l'aviation civile, mais le trafic a repris de plus belle, en fait.
Ouais. Et tu disais, ça fait une quinzaine d'années que tu viens plus ou moins régulièrement en Brenne. Depuis combien de temps tu t'intéresses vraiment à l'entrée sonore du paysage et qu'est-ce qui t'a amené là-dedans ?
Eh bien, je suis venu par la porte de l'ornithologie. Hein. Il y a pas mal de gens qui font la démarche de s'élargir à la question de l'écologie, devenir naturaliste, un peu généraliste. Il y a pas mal de gens qui sont venus en étudiant les oiseaux, enfin en faisant de l'ornithologie, quoi, observant D'accord. les oiseaux. Et puis du coup, on tend l'oreille pour apprendre à les identifier. Puis après, du coup, on essaie de voir dans... Ah, bah, ils fréquentent plutôt les résineux, des feuillus. Ah, bah tiens, c'est un bosquet de saules, là. Bah, cet oiseau-là, il fréquente plutôt la roselière. C'est quoi une roselière? Comment est-ce qu'elle repousse? Est-ce que ça s'entretient? Ces roseaux-là, c'est pas tout à fait... le phragmite, c'est pas le typha. On fait de la botanique. Après, on fait un peu d'écologie, et ainsi de suite. Et puis, par ailleurs, moi, je travaille dans le domaine de l'aménagement, de l'environnement et de l'aménagement, et de l'urbanisme. Et la notion de paysage, ça m'a toujours intéressé parce que c'était pour moi aussi une forme de milieu naturel. Partout on est dans un milieu naturel, plus ou moins, et dans des paysages plus ou moins qualitatifs. Et comme la France se targue beaucoup d'avoir des beaux paysages, il faudrait qu'elle se réveille hein, parce que c'est plus du tout le cas et qu'on laisse aller à volo beaucoup de nos paysages parce que. Il y en a qu'on n'entretient plus. C'est pas ça qui dégrade nos paysages le plus, hein, parce que ça se fait très lentement, la mutation du paysage dans ces cas-là. Le problème, c'est quand on veut intervenir à outrance, qu'on croit bien faire, on rase une friche parce qu'on croit que ça abrite trop de sangliers, ou on veut ratiboiser sa pelouse, enfin son talus herbeux parce qu'on veut que ça fasse propre et net, et puis bon, on oublie qu'il y a des grillons dedans, après tout un peu comme ça, on veut que les sous-bois soient propres, on abat à tour de bras des taillis et on change nos paysages, on veut élaguer à outrance une allée d'arbres pour que ça fasse net. Et puis, en fait, on fait même mourir parfois un tilleul parce qu'on a trop élagué, ETT, etc.
J'ai retrouvé Coralie et Baptiste qui sont stagiaires de la formation sur les paysages sonores. Et je vais leur poser la même question qu'à Pascal. C'est quoi pour vous un paysage sonore ?
Alors, pour moi, le paysage sonore, c'est vraiment, on se concentre sur la dimension donc, acoustique, donc liée à l'ouïe, et c'est la description et puis l'interprétation, en fait, des sons qu'il y a autour de nous. Et puis nous, on est vraiment dans un contexte environnemental naturaliste, donc les sons de la nature.
Et alors, pour moi, c'est des couleurs, des matières, des textures, des sensations, des ressentis dans lesquels je suis immergée et qui sont provoqués grâce à ce que j'entends autour de moi.
Oui, il y a vraiment l'aspect d'un ensemble de choses qui vont constituer ce paysage. C'est un tout, en fait.
Oui, c'est à la fois sensoriel et au niveau de la connaissance, quoi.
C'est tout à fait ça, voilà. Je pense que c'est un sens qu'on utilise et qu'on ne développe pas forcément assez, qui nous permet aussi d'apprendre plein de choses, d'acquérir de la connaissance et puis d'interpréter derrière, quoi.
Et là, on est en Brenne. Est-ce que pour vous, le paysage sonore de la Brenne, il a des particularités ?
Une grande particularité ornithologique, mais aussi une grande particularité anthropique. Ce que je n'ai jamais réalisé depuis que je m'intéresse vraiment au paysage sonore, qui a effectivement beaucoup d'avions qui passent.
Oui. Ouais, mais tu vois, moi, je viens de d'Eure-et-Loir, et qui est aussi, j'habite aussi à la campagne, et c'est pas du tout le même genre de campagne, et c'est hyper agréable pour moi de revenir dans un paysage où il y a une telle diversité de sons et de chants d'oiseaux notamment, alors que moi, dans la campagne où j'habite, on a perdu énormément de variété, de diversité de chants. Et donc, du coup, c'est un vrai plaisir, en fait, d'être ici et de ressentir ça, quoi.
Oui, il y a peut-être des espèces spécifiques que tu ne retrouvais pas dans l'Eure-et-Loir.
Oui, alors ça, il faut plutôt en parler avec Baptiste, qui est un expert en ça.
Bah, moi, c'est pas la première fois que je viens en Brenne, et je sais que c'est un recueil ornithologique pour beaucoup d'ornithologues assez incroyable. Par contre, moi, ça fait 3 ans que je viens ici, que je cherche une espèce en particulier, et que je ne l'ai ni vu ni entendu. Et donc, je me pose des questions.
C'est quoi cette espèce ?
C'est 3 espèces, en fait. C'est 3 espèces de marouettes, donc, qui appartiennent au même genre. Et donc, c'est la marouette ponctuée, la marouette poussin et la marouette de Bayon.
Sinon, toi, tu disais que tu recherchais ces sons d'oiseaux particuliers. Est-ce qu'il y a des sons que là, vous avez entendus et peut-être captés aussi, qui vous ont particulièrement marqués ?
Moi, je dirais la diversité des amphibiens. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de naturalisme, notamment en région parisienne, et les amphibiens sont très affectés dans cette région-là. Et ça me fait plaisir là, de venir en début, milieu de saison, propice à l'écoute des amphibiens, puis d'entendre les cortèges de rainettes, de complexes de grenouilles vertes, de crapauds calamites. Et c'est vrai que dès mon arrivée, en fait, le premier soir dans la région, on entend tout ce cortège, et ça, c'est vrai que ça fait énormément plaisir, quoi.
Moi, je vais raconter une anecdote. Ce matin, je me suis levée très tôt. Et à 6h, vers 6h, 6h30, j'étais dans une bande herbeuse dégagée avec des plots de chasse, de chasseurs. Et j'étais en train d'enregistrer dans un arbre. Il me semble que c'était quelque chose de la famille des fauvettes. Donc, j'étais très contente, j'avais un beau son. Et tout d'un coup, au coin de l'œil, je vois bouger quelque chose. Et je tourne la tête et c'était un faon de chevreuil qui était en train de s'approcher de moi tranquillement et qui pensait que j'étais un arbre vu que je ne bougeais pas et que j'avais les bras levés. Et je pense que le son que j'ai enregistré va me rester en mémoire très très longtemps. Donc je suis incapable de dire ce que c'était exactement comme oiseau, mais voilà, ça m'a beaucoup marqué en fait. Voilà.
Ben oui, je pense bien. Je voulais vous demander aussi, t'en parles là, t'étais en train d'enregistrer des sons quand tu as aperçu le faon. Dans cette formation, il y a l'aspect naturaliste avec tout ce qui est écoute, et il y a aussi l'aspect captation des sons. C'est des choses que vous avez appris ?
Alors, moi, pour expliquer en fait un petit peu mon point de vue aussi pour laquelle j'étais intéressé par cette formation, c'est que moi, je suis aussi musicien à côté, c'est une de mes passions. Et dans le naturalisme, en fait, là, j'ai l'impression de retrouver un peu un équilibre entre ces deux passions. Car je m'intéresse donc pas mal aux chants d'oiseaux et aussi à l'écoute des chauves-souris, donc dans le domaine plus des ultrasons. Et en fait, là, au fur et à mesure, j'ai envie d'un peu lier ces deux passions. Et donc, moi, créer ma propre sonothèque de sons de la nature et aussi développer des nouvelles méthodologies d'inventaire naturaliste par l'écoute et notamment la captation aussi de sons. Donc, c'est des outils un peu aussi techniques qu'il faut apprendre à utiliser et à développer. C'est aussi une des principales raisons qui m'ont intéressé à faire cette formation.
Et donc moi, je suis réalisatrice plutôt de documentaires et j'ai une formation artistique et notamment une formation en création sonore. Donc ça, c'est des outils que je connais déjà depuis très longtemps. Et en fait, depuis récemment, ça fait très longtemps que je m'intéresse aux activités naturalistes. Mais ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Et du coup, pour moi, c'est à la fois un moyen d'expression, à la fois un moyen de transmission. Et ici, ce que je cherchais dans ce stage-là, c'était plutôt comment est-ce qu'on construit une composition naturaliste d'un paysage sonore. C'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de ce que toi, tu écoutes, comment est-ce que tu vas pouvoir le donner à écouter à quelqu'un et que ce ne soit pas toute une cacophonie qui se donne de façon complètement aléatoire, mais que quand même, tu vas avoir par ton action donner un sens d'organisation, d'harmonie, d'esthétique dans toute cette nature qui se présente de façon très très vivante et énergétique et parfois désordonnée, quoi.
Donc vraiment le travail sur les sons que vous enregistrez.
Oui, c'est ça. Et puis toute la dimension qui passe de OK, un son égale une information. Bah, un son égale une information, mais aussi une forme, comme je disais, une texture, toute la dimension sensible et sensorielle de ce que c'est qu'un son.
Et donc vous avez vraiment des idées assez nettes sur ce que vous voulez faire plus tard avec ce que vous avez appris là.
Du coup, moi, je suis en train de débuter une série de podcasts plutôt sur qu'est-ce que c'est qu'être naturaliste et justement c'est quoi ton rapport à la perception et à comment tu projettes ta sensibilité mais tout en apprenant des choses et en donnant des choses à apprendre. Donc ça, ce serait un sujet sur lequel ça m'intéresse. Et puis au-delà de ça, moi ça fait longtemps que je faisais à une époque de la création sonore. Ça m'a donné envie de m'y remettre et de recommencer ça. Donc en termes de diffusion, c'est plutôt, plutôt des festivals, internet, des espaces d'exposition, etc. D'accord.
Puis moi, dans mon contexte, c'est donc dans le contexte naturaliste, ça serait donc d'utiliser un peu là, tous les outils qu'on a appris pour améliorer certains suivis de la biodiversité ou développer des nouvelles méthodologies d'inventaire. Moi, là, la première chose à laquelle je pense, c'est que moi, je fais beaucoup de suivi de migration des oiseaux cette année. La migration des oiseaux, donc on observe du lever du soleil au coucher du soleil, mais presque 70% des oiseaux migrent de nuit. Et donc j'aimerais en parallèle, en fait, développer un peu un protocole de suivi de la migration des oiseaux nocturnes par la prise de son, du coup. Et après, ça, c'est le côté qui va un peu mélanger mes deux passions. C'est pourquoi pas faire de la création musicale avec des enregistrements sonores de sons de la biodiversité.
Super, donc à la fois naturaliste et puis artistique.
Et artistique aussi, tout à fait.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci donc à Pascal, Coralie et Baptiste d'avoir participé à cette capsule. Et merci encore à Pascal de nous avoir prêté des sons qu'il a enregistrés à la fois pendant et en dehors de la formation. Dans l'ordre, il y avait la phragmite des joncs, les crapauds calamites et les rainettes vertes. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur le fil de l'acoustique.
Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.